Les Voix de service magazine, mercredi le 15 novembre 2017. Alors, bonjour tout le monde. Vous entendez ce matin la voix de Daniel Lachance en remplacement d'Isabelle Falardeau qui est en congé aujourd'hui. Et j'ai avec moi mon collègue Serge Bradet.
Bonjour,
bonjour, bonjour Serge.
Alors, nous sommes les deux mousquetaires.
On est seulement les deux
mousquetaires. Ah ben non, trois mousquetaires avec Jean-Sébastien,
ouais,
c'est vrai.
Ouais,
ben
faut pas l'oublier de l'autre côté d'une vitre, mais on le voit quand même et on va l'entendre aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui, Serge?
Moi, je vais vous parler d'un livre qui vient de paraître sur Idola Saint-Jean, qui est une féministe et qui a milité pour le droit de vote des femmes et qu'on connaît un petit peu moins. On connaît plus Thérèse Casgrain ou tout ça. Alors, c'est un livre qui a été un livre écrit par Marie Lavigne et Michel Stanton-Jean. Je vais vous parler de ça. Également, Les trésors détruits de Montréal.
Les tous, édifices qui ont été détruits.
Tous ces beaux détruits, tous ces beaux édifices qui ont été détruits, malheureusement, dans les années, il y en a beaucoup dans les années 60. Mm-hmm. Et également, si on a le temps, je pense qu'on aura le temps, comme on est deux, les origines de la famille Catelli.
Oui, oui, ça
les Catelli.
Pourrait être
et
intéressant.
Chose, évidemment, c'est les pâtes Catelli, mm-hmm. mais quand ils sont arrivés à Montréal, les Catelli, dans les années 18, fin milieu du 19e siècle, c'était des sculpteurs.
Ah.
Ouais. Et à un moment donné, ils sont allés vers les pâtes.
Plus payant.
Oui, oui.
Probablement.
Ouais.
Et moi, je vais vous parler d'une des guitares de Bob Dylan qui a été vendue récemment aux enchères. Et j'ai deux articles pour vous en parler. C'est des articles assez courts, mais il y en a un qui est plutôt intéressant. Et où je vais vous parler aussi de John Carpenter, qui mm-hmm. est un cinéaste et qui écrit lui-même la musique de ses films.
Ben oui, j'ai vu ça.
Il fait une tournée actuellement, mm-hmm. donc mm-hmm. Ça risque d'être un petit peu intéressant aussi et peut-être d'autres courts sujets en cours de route. Donc, Serge, vous nous parlez de Madame...
Idola Saint-Jean.
Oui.
Mm-hmm. Alors, c'est un livre qui a été écrit par Marie Lavigne et Michel Stanton-Jean, Idola Saint-Jean l'insoumise aux éditions Boréal, un livre de 384 pages que je pense je vais me procurer et je vais lire parce que ça doit être très intéressant. Alors, c'est l'article est de Nathalie Collard dans la presse de dimanche, de ce dimanche. Le hasard fait bien les choses. La biographie d'Idola Saint-Jean paraît au moment où Montréal élit sa première mairesse en 375 ans. Or, cette militante féministe a consacré sa vie à défendre les droits des femmes et à lutter pour leur droit de vote. Femme de tête, journaliste et enseignante, elle gagne à être connue. Ses biographes, Marie Lavigne et Michel Stanton-Jean, nous disent pourquoi. Elle a consacré sa vie à lutter au nom des femmes. Le droit de vote des femmes, c'est le combat de sa vie. Même si elle s'y est attelée alors qu'elle était déjà dans la quarantaine, souligne Marie Lavigne, co-auteur d'Idola Saint-Jean les Soumises, paru aux éditions Boréal. Pour elle, le fait que les femmes ne puissent pas voter est un élément de révolte. Lorsqu'elle prononce des conférences à travers le pays, elle découvre que beaucoup de femmes souhaitent voter alors qu'on disait qu'il n'y avait personne qui voulait voter. Personne, c'est les femmes, évidemment.
Donc les femmes ne semblaient pas intéressées à voter d'après...
Exactement. Mm-hmm. Les femmes peuvent voter dans toutes les provinces, sauf au Québec et dans les territoires du Nord-Ouest. On pensait que ce serait une formalité lorsqu'il a été accordé au fédéral en 1921, mais non, ça ne se passe pas comme ça, il faudra attendre 19 ans pour le Québec. Elle parlait d'aristocratie des sexes, note Michel Stanton-Jean. Sa logique et son analyse m'ont beaucoup impressionné. Elle disait « Pourquoi je peux faire un X au fédéral et que j'en suis incapable au Québec? » Son mantra était toujours le même. Si la moitié de l'humanité n'a pas le droit de vote, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
Mm-hmm.
Son argumentaire était tellement bien articulé. Quand je l'ai lu la première fois, je me suis dit, elle sort d'où, elle? Si Idola Saint-Jean vivait aujourd'hui, elle ne se sentirait pas étrangère au sein d'un groupe de blogueuses féministes. Travailleuse autonome, comédienne, elle enseignait le français à l'Université McGill et la diction au Monument national. Elle a ouvert une librairie itinérante, un pop-up store, rue Sainte-Catherine, où elle vendait des ouvrages féministes. Quand même assez osé pour l'époque.
C'était, ouais, assez innovateur.
Très impliquée dans la défense des droits des femmes, elle voulait qu'elles jouissent des mêmes droits juridiques que les hommes. Elle a eu l'idée d'une clinique juridique qui faisait penser à l'organisme Juripop. Sur le plan personnel, Idola Saint-Jean est restée célibataire toute sa vie. À l'époque, souligne Marie Lavigne, les célibataires étaient rares. Tu étais religieuse ou tu habitais avec tes parents. C'était les deux choix.
Donc religieuse ou vieille fille.
Oui, exactement, oui. Idola ne s'est pas mariée sans doute parce qu'elle a été témoin de l'impuissance de sa mère à la mort de son père. Vu la situation juridique des femmes mariées, elle a sans doute voulu rester célibataire. Idola Saint-Jean était également une femme de carrière. À l'époque, quand une femme travaillait, c'était en usine ou comme domestique. Seulement 10 % des femmes sur le marché du travail étaient des professionnelles. Sa conception du féminisme était aussi moderne. À la fin du 19e siècle, souligne Michel Stanton-Jean, on est féministe pour faire de l'action sociale, pour réaliser d'autres causes. Le féminisme d'Idola Saint-Jean, lui, est égalitaire. Elle disait « Nous sommes féministes pour une simple raison, nous voulons être reconnus comme humains à part entière. » Jusqu'ici, on savait bien peu de choses sur elle. Les deux historiennes ont pu constater qu'il y avait très peu d'archives sur Idola Saint-Jean. Fille d'avocat, elle avait étudié au collège Villa Maria, puis avait suivi des cours de théâtre en France. Elle n'a laissé ni journal personnel, ni correspondance, note Michel Stanton-Jean. On a trouvé des lettres qui lui sont adressées, mais on n'a pas ses réponses à elle. Comme elle était fille unique et célibataire, il n'y a pas eu de descendants pour faire le lien. Idola est morte en 1945, après la guerre, ajoute Marie Lavigne. On connaît davantage Thérèse Casgrain, qui a vécu 30 ans de plus qu'Idola Saint-Jean et qui est morte plus récemment. En fait, on a eu l'immense chance que les archives soient numérisées. On a trouvé plusieurs documents sur Idola dans le fond de la Ligue des droits des femmes. C'était une pionnière des médias. Des décennies avant Lélise Payette et Lisette Gervais, Idola Saint-Jean s'est est présente dans les médias où elle discute de conditions féminines et de féminisme. Elle a sa propre émission de radio à CKAC et elle n'est pas là pour parler de chiffon, évidemment. Elle présente plutôt des entrevues et s'intéresse à la politique. En 1922, elle prononce un discours pour dire aux femmes d'aller voter, souligne Marie Lavigne. À cette époque, le Québec n'est pas si univoque. Il y a quand même une grande liberté dans le milieu artistique et sur les ondes. Le clergé ne sait pas encore qu'il peut contrôler les médias. Ça, c'est intéressant. Mm-hmm. Donc, c'est venu plus tard, dans les années 30, ou avec l'arrivée de la radio. En plus de la radio, Idola Saint-Jean signe une chronique bilingue dans les pages du Montreal Herald. Elle ne parle pas de cuisine ou de sujets domestiques, et sa chronique s'adresse à la femme qui travaille. L'écriture et la parole sont les premiers secteurs de développement professionnel où les femmes ont pu faire leur marque, dit Marie Lavigne. Elle était insoumise. Pourquoi avoir qualifié Idola Saint-Jean d'insoumise? Parce qu'elle se permettait de réfléchir et n'acceptait pas le discours du pouvoir établi, répond Marie Lavigne. Elle remettait les choses en question. Elle disait que les femmes étaient des esclaves. Elle allait loin, renchérit Michel Stanton-Jean. Elle est allée au front pour aider les femmes, mais aussi les jeunes délinquants et les immigrants. Elle a également travaillé sur des enjeux internationaux. Elle insistait beaucoup sur l'importance d'être inclusif. Idola Saint-Jean avait une grande capacité de rester fixée sur ses objectifs, conclut Marie Lavigne. Elle n'usait pas de flatterie ou de compromis stratégiques pour obtenir ce qu'elle voulait. Elle disait « On va l'obtenir parce que c'est juste ».
Bon. La seule vraie façon d'annoncer les choses.
Oui. Et d'ailleurs, un petit commentaire personnel, parce qu'on on parlait tout à l'heure elle disait « parce qu'on est des personnes, hein, il faut... Mm-hmm. » Bon. Et il y a un jugement qui avait été rendu pour donner le droit de vote aux femmes, c'est qu'on avait statué, parce que on disait que des personnes avaient le droit de vote, puis les gens disaient « les femmes n'ont pas le droit de vote ». Les femmes sont allées devant des tribunaux et ont dit « ben écoutez, des personnes ont le droit de vote, on n'est pas des personnes, alors si on n'est pas des personnes, dites-nous ce qu'on est ». Et là, c'était rendu à Londres, au Conseil privé. Et le Conseil privé de Londres avait statué, parce que si on ne leur donne pas le droit de vote, elles vont nous revenir.
Trouver une autre définition.
Justement, en nous disant, ben, si on n'est pas des personnes, qu'est-ce qu'on est? C'est ça. Là, ils avaient eu le droit de vote comme ça.
Donc, c'était petite la bonne histoire. Question à poser.
Oui.
Merci, Jean. Serge. Et on vient d'entendre une partie d'une pièce de John Carpenter, je crois que c'était le film The Fog, et on voit que c'est un petit peu influencé par la musique, thème aussi du film The Exorcist, qui avait été écrit par Mike Oldfield. Donc, un article que j'ai pris dans la presse plus de ce week-end, John Carpenter, la tournée musicale du maître de l'horreur. Il est un des rares réalisateurs à avoir composé la musique de la majeure partie de ses films. Des partitions reconnaissables dès les premières notes qu'il joue maintenant sur scène avec son fils et son filleul. Dans le cadre de sa tournée anthologie, le créateur du film Halloween est de passage à Montréal. Et c'est était de passage. Après de 70 ans, John Carpenter appartient à la catégorie très sélecte des cinéastes cultes. Mais il ne l'a jamais eu facile. Manque de budget, échec commercial de films qui sont aujourd'hui vus comme des classiques, Carpenter a longtemps été considéré aux États-Unis comme un réalisateur de série B et en Europe comme un authentique auteur. Les plus grands classiques, les plus grands cinéastes de Cameron à Tarantino saluent maintenant l'influence du créateur de The Thing, The Fog, Halloween, Escape from New York, Christine. D'ailleurs, Christine, c'était d'après un scénario de Steven... Mon Dieu, les noms m'échappent ce matin. L'écrivain. L'écrivain de... beaucoup de...
Stephen King?
Stephen King, King, voilà. Okay. Mon Dieu, King. Pas difficile à retenir, pourtant. Donc, la plupart du temps, dans une espèce de rush créatif de moins d'une semaine sur les premières générations de synthétiseurs qui ont donné le son distinctif des années 80, dans un esprit têtu de débrouillardise. D'ailleurs, on pouvait entendre un peu sur cette pièce-là, dans le fond, en arrière, un son de synthétiseur. Il y a le style Carpenter et il y a le son Carpenter. Ce travailleur acharné qui a grandi avec un père professeur de musique a composé en grande partie la musique de ses propres films que même ceux qui ne les ont jamais vus peuvent reconnaître. Le musicien se plaît néanmoins à enregistrer cette musique, à lui apporter une nouvelle vie. La technologie aujourd'hui est tellement plus avancée que lorsque j'ai commencé, c'est incroyable. Coup de bol, ce son des années 80 est revenu à la mode chez les compositeurs les plus branchés qui se passionnent pour les musiques de Marauder, Vangelis, Tangerine Dream, Goblin et bien sûr Carpenter. Et ricane-t-il, c'est génial, c'est merveilleux cette vague de nostalgie pour les années 80. Je ne sais pas pourquoi elle existe et qui le sait, mais c'est bon pour moi. Il ne sait pas trop ce qui fait une bonne musique de film d'horreur, ni même ce qu'est au juste le style Carpenter. Je n'aime pas trop y penser et ça me rend nerveux. Mais disons que si vous avez peur en voyant un film, c'est probablement que la musique fonctionne pour vous. Mais parfois, dans un film d'horreur, l'absence de musique est plus importante. C'est vrai aussi qu'il y a certaines scènes de films que la musique va appuyer beaucoup. Ah, si on coupe le son, souvent, on n'est pas aussi touché par cette scène-là.
Pensons à Jaws.
Effectivement.
Mon Dieu.
Et il y a raison aussi de dire que parfois, l'absence totale de musique ou de son, c'est encore plus inquiétant. Donc, ça prend un certain dosage. Oui. Je pense que la partie créative, artistique, c'est là que ça se passe. Donc, la musique est demeurée une affaire de famille chez le Carpenter, puisque le maître de l'horreur, c'est ainsi qu'il est désigné, ce qu'il souligne fièrement sur son compte Twitter, est accompagné sur scène par son fils Cody et son filleul Daniel Davies, avec qui il a fait les deux albums Lost Themes et plus récemment Anthology Movie Themes de 1978 à 1994, qui se trouve au cœur du show qu'il propose. Est-ce plus stressant d'être sur scène devant un public que derrière une caméra? C'est une proposition assez effrayante pour moi d'aller sur scène et de me montrer, mais j'y suis maintenant habitué. C'est beaucoup plus facile que de faire des films. Je veux dire, tout ce que vous avez à faire est de jouer de la musique pour les gens. Ce n'est pas difficile, c'est seulement du fun. Et mon Dieu que c'est beaucoup de fun, dit Carpenter. Carpenter aurait pu composer la bande sonore de Stranger Things, qui s'inspire pas mal de son style, mais l'idée d'être uniquement compositeur de musique ne l'effleure pas vraiment. « Oh non, » répond-il en riant beaucoup, « je ne veux pas faire ça. Je suis avant tout un réalisateur. Ma passion réside dans la création de films. Je ne serais pas bon pour personne d'autre. » Bref, John Carpenter se paye la traite avec cette tournée familiale qui attire, selon lui, autant les fans de la première heure que les plus jeunes. Je suis heureux dans ma vie, les jours de stress incroyables sont pas mal derrière moi. Et il était au MTELUS le 13 novembre, malheureusement on l'a manqué, mais si vous êtes intéressé à le voir, il est quand même à Boston ce soir, à New York le 16 novembre, à Philadelphie le 18 et à Syracuse le 19 novembre. Mm-hmm.
Autre composition de John Carpenter, le très célèbre thème des films Halloween.
Oui, effectivement. Donc, Serge, parlant d'Halloween.
Oui, parlant d'Halloween. Vous avez été très impressionné, Daniel et Jean-Sébastien, dans sa régie, par la photo que je vous ai montrée.
Oui, effectivement,
hein?
Ça a été assez impressionnant.
Oui, Jean-Sébastien, oui.
Absolument.
Oui. J'avais vu, moi, dans un documentaire sur Historia au Canal D, là, ou peut-être même à Découverte, dans les Andes, ils ont découvert une momie. Et la momie était, évidemment, elle ne datait pas de 2000-3000 ans comme chez les Égyptiens, mais de 400-500 ans à peu près. Et elle était endormie. Alors, on nous explique, c'est une revue. J'ai trouvé ensuite dans la revue Histoire, ça m'intéresse, mars-avril 2017, deux articles. J'aurais peut-être le temps de vous lire les deux, en tout cas pour cette partie-ci de l'émission, une. Alors, le titre, c'est « Pour faire une momie comme chez les Incas, droguez une jeune fille, faites-la marcher pendant 1600 km et sacrifiez-la au dieu du volcan. »
Ah, facile, dans le fond.
Oui. Hein? Alors, c'est la Donchella, la belle endormie des Andes. Dans l'actuelle Argentine, il y a 500 ans, une fille de 14 ans est sacrifiée en l'honneur des divinités incas. La Donchella, c'est jeune fille en espagnol, a subi le rite de la Capacocha. Généralement, après le décès de l'empereur ou la naissance de l'un de ses fils, les Incas offrent aux dieux des enfants, considérés comme purs. Si on parle de filles, on dit là des enfants. Je ne sais pas si c'était des garçons et des filles ou juste des filles. Considérés comme purs pour assurer l'équilibre de l'Empire. Partie de Cuzco, dans l'actuel Pérou, la Donchella et deux autres enfants sont amenés en haut du volcan du Lululailalaco.
Ah oui, ben oui.
Oui, vous connaissez, bon.
Le volcan qui n'est pas actif actuellement.
À plus de 6700 mètres d'altitude. Droguée avec des feuilles de coca, la belle s'endort paisiblement dans le froid glacial. Au sommet, on endormait les enfants, par ailleurs épuisé évidemment par un périple de 1600 km à pied, hein, il n'y a pas d'autobus.
En combien de train, jours, d'heures?
Je ne dis pas, oui. On les endort avec de la chicha, un alcool de maïs. Puis, sous l'effet du froid et de la basse pression, ils finissent par mourir d'hypothermie, évidemment, explique l'anthropologue Gabriela Recagno. Ici, le corps de la jeune fille, dont je vous ai montré la photo, est préservé de manière naturelle grâce à la glace. Lorsqu'elle est découverte par des archéologues en 1999, elle semble plonger dans un sommeil profond. C'est vrai quand on regarde la photo. Mm-hmm. Ses cheveux noirs sont toujours noués en tresse. Après une série de radios, les scientifiques découvrent que son estomac contient encore de la nourriture. Cela a permis de connaître le régime alimentaire des sacrifiés qu'on engraisse avec des protéines animales pendant plusieurs mois avant de les escorter jusqu'à leur lieu de mort. J'en ai un autre sur un moine bouddhiste. Est-ce qu'on a le temps?
Ouais, je pense oui.
Alors, le moine bouddhiste, dont je vous ai montré la photo aussi, l'article, c'est le moine bouddhiste qui prie pour l'éternité. « Venez et voyez. » C'est ce qu'un moine bouddhiste russe, souhaitant être exhumé 30 ans après sa mort, demande à ses disciples dans son testament spirituel. Fervent adorateur du Bouddha, Dashi Dorzo Itigilov est né en 1852 en Sibérie. Dans les années 1920, sentant sa mort approcher, il débute d'interminables séances de méditation. Il meurt en prière à l'âge de 76 ans en 1927, dans la position du lotus. Les moines le placent tel quel dans une boîte de pain rempli de sel, et l'enterre. Selon ses dernières volontés, son cadavre est exhumé à plusieurs reprises. Mais il est vite remis sous terre pour ne pas attirer l'attention des forces de l'ordre du gouvernement athée de la Russie communiste. Sa dépouille est exhumée à nouveau en 2002 et, surprise, la momie est encore fraîche.
Est-ce que c'est à cause du sel? Est-ce qu'ils ont...
Je ne sais pas si l'article nous le dit. Les scientifiques affirment que le cadavre est dans le même état que celui d'une personne décédée il y a 36 heures. Ah. Ben le sel est un conservatif.
Ouais, probablement. Ouais.
Préservatif, conservatif. Ouais. Ses muscles n'ont pas fondu et sa peau est souple. Certains adorateurs affirment même que du sang coule dans ses veines. Oh. Est-ce un miracle? Le sel a participé au ralentissement de la dégradation du corps, mais il n'explique pas à lui seul l'excellent état de conservation. Les experts qui l'ont étudié n'ont pas trouvé assez d'éléments justifiant le phénomène. Une surprenante histoire à méditer. Faut aussi vous dire que les gens qui font la méditation comme ça se placent dans un état de transe.
Ouais.
Alors, c'est peut-être ça qui a... Ouais. Ça a déclenché un mécanisme.
Ça fait un peu ésotérique, non?
Oui, absolument. Oui. Mais là, c'est mon explication personnelle.
Que ce soit le sel et la température. Un article que j'avais trouvé dans le magazine Rolling Stone, un nom qu'on n'entend plus tellement souvent, Buddy Holly, qui aurait 81 ans actuellement, cette année. Né Charles Hardin Holly, le musicien de génie, aurait eu 81 ans aujourd'hui. Ça, c'était en juillet. À peine était-il grimpé au sommet des charts américains avec les inimitables That'll Be the Day et Doesn't Matter Anymore, qu'il décédait dans un accident d'avion le 3 février 1959. Une date funeste entrée dans l'histoire sous le nom du jour où la musique est morte. D'ailleurs, c'était mentionné dans la chanson American Pie de, je me souviens pas de son nom, je l'ai quelque part. Je vous reviendrai.
Don McLean.
Don McLean, voilà, heureusement. Vous avez bien fait de mentionner, Serge, tantôt, qu'on a notre
acolyte
Jean-Sébastien, qui est toujours là pour nous dépanner. À l'heure où la plupart des musiciens américains enregistraient et réenregistraient des classiques composés par une foultitude d'auteurs, Buddy Holly et ses Crickets prirent le parti d'écrire leurs propres paroles et de composer leurs propres mélodies. C'était nouveau dans le monde de la musique pop. Auteur-compositeur pionnier, il réussit à se faire rencontrer country, blues et R&B de la plus surprenante des manières, influençant de ce fait une multitude de musiciens, dont les Rolling Stones et les Beatles, dont les Beatles d'ailleurs, on le mentionne ici, dont le nom s'inspire des Crickets. Beatles, c'est une autre sorte de petite bibitte, dans le fond. Donc, c'est de cette façon-là qu'ils ont trouvé leur nom. Du chanteur aux lunettes à monture d'écaille. Peu de temps après s'être produit dans une petite salle au cœur de l'Iowa, il prend un vol en compagnie des vedettes de la chanson Ritchie Valens, l'auteur de La Bamba, Giles Perry Richardson Jr. et The Big Bopper. Il n'arrivera jamais à bon port. Malgré sa carrière tragiquement écourtée, il est néanmoins l'un des premiers artistes à entrer au Rock'n'Roll Hall of Fame. Donc, chapeau à l'artiste, on parle vraiment de l'une des premières vedettes du rock'n'roll.
Oui, alors des petites citations célèbres ou moins célèbres. Pierre Dac, D.A.C.
Elle est bonne. J'espère qu'on va avoir le temps de l'entendre.
Je ne sais pas si je dois lire en nom. Ben oui.
Ah non, on va laisser faire.
Certaines voies urinaires sont encore plus impénétrables que les voies du Seigneur.
Oh, oh, oh. Oui, effectivement.
C'est l'amour explosif qui fait sauter les boutons de braguette.
Wow.
C'est quand elle arrive trop tard qu'une intervention chirurgicale est inutile.
Ah, ouais, celle-là, ouais, je l'aime bien.
Ouais.
Surtout si on parle de...
Ouais. La radiographie, c'est le viol légal de l'intimité physiologique.
C'est ce qu'on fait de plus en plus dans les aéroports aussi.
Ouais. Le crétin prétentieux est celui qui se croit plus intelligent que ceux qui sont aussi bêtes que lui.
Ouais, ça mérite c'est sage, réflexion. Oui.
Il faut l'analyser.
Donc, ça met fin à la première partie. On vous revient dans quelques minutes. Serge Bradet, Jean-Sébastien Leliberté et Daniel Lachance aux Voix de Service Magazine.
If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. Was the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. Thank you. down, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a-changing.
Retour en 1964 avec Monsieur Bob Dylan, The Times They Are A-Changin'.
Wow!
Oui, Bob Dylan, pendant sa période vraiment acoustique, avant le scandale quand il avait pris la guitare électrique. Mais ça, c'est un autre sujet, on en reparlera plus tard. Un sujet que j'ai trouvé intéressant, un article qui s'intitule « C'est bientôt Noël, offrez-vous la guitare de Bob Dylan ». Justement. Drôle de hasard, hein, quand même.
Mais est-ce qu'on peut s'acheter la guitare de Bob Dylan?
C'est ce que nous allons voir.
Ça prend combien de millions?
C'est un article qui est paru le 9 novembre et les enchères étaient le 11. Donc, je suis retourné par la suite pour voir, suite aux enchères, combien la guitare avait été vendue. Mais là, je vais vous lire le premier article. La Martin D28 utilisée par Dylan dans les années 70 sera vendue aux enchères le 11 novembre. Mise à prix 300 000 $. Probablement un prix un peu exagéré quand on mais bon. Une guitare comme ça, ça vaut quelques milliers de dollars. C'est tout simplement parce qu'elle a appartenu à quelqu'un de très célèbre. Donc, le 11 novembre, à Dallas, au Texas, sera mis en vente par Heritage Auctions un joli bout d'histoire du rock en bois avec des cordes, une guitare de Bob Dylan, celle sur laquelle il a joué en 1971 pour le Concert for Bangladesh de George Harrison, qui, en passant, était le premier concert rock bénéfice. Hein. Il y en a eu plein d'autres après, Live Aid et compagnie, mais c'est George Harrison qui a fait
le premier.
En 1971. Il y avait plein de monde. Eric Clapton, Ravi Shankar, Bob Dylan et compagnie. Donc, et durant la tournée Rolling Thunder Review entre 1975 et 1976. Il s'agit d'une bonne guitare, j'espère. Une Martin D28 modèle 1963 qui a appartenu à Dylan entre la fin des années 60 et celle des années 70, donc une période d'une dizaine d'années. Elle sonne plutôt bien, comme on peut l'entendre dans la vidéo. Il y avait une vidéo sur Internet que je ne vous ferai pas jouer. En 1977, Dylan avait décidé de passer à la marque Gibson et avait vendu sa Martin D28 à son luthier, Larry Craig, pour 500 $. Donc, une possibilité d'un gain de capital assez intéressant ici. L'homme est lui-même une star de la lutherie rock. Depuis 1969, il a travaillé avec les Stones, Santana, Jefferson Airplane, Springsteen ou encore Neil Young. Donc, je pense qu'il connaît un peu les guitares. Larry Craig a conservé la guitare de Dylan en Californie dans un environnement climatisé et personne ne l'a utilisée en 40 ans. Donc, elle est presque momifiée. Je ne sais pas s'il l'avait mis dans le sel, là, mais elle est encore intacte. C'était un de ses instruments préférés. Ce fut un plaisir de posséder cet incroyable morceau de l'histoire de la musique, mais le temps est venu de lui trouver un nouveau propriétaire qui l'appréciera autant que Bob et moi-même nous l'avons apprécié. La guitare de Dylan est mise en vente avec une enchère planchée de 300 000 $, mais elle devrait rapporter beaucoup plus. C'est seulement la deuxième fois dans l'histoire de l'humanité qu'une guitare ayant appartenu à Bob Dylan se retrouve sur le marché des enchères. La première, la Fender Stratocaster, donc électrique, utilisée par Dylan au festival de Newport en 1965, était partie en 2013 pour la somme rondelette de 965 000 $.
Oh, mais là, ça va peut-être dépasser un million, là, celui-là?
Probablement pas, mais la Fender, c'était vraiment un record absolu. Et je raconterai cette histoire-là à un moment donné, mais rapidement, c'est que quand il avait joué à ce festival-là, c'était la première fois que Bob Dylan se présentait sur une scène avec une guitare électrique, avec un band électrique. Et les gens allaient là pour un festival de musique folk. Ils voulaient entendre des guitares acoustiques, de la musique folk. Et il s'est fait huer pendant tout le spectacle. Il a continué à jouer. La vidéo est disponible, c'est assez intéressant. Si je vends une Folk Fender, ça c'est l'auteur de l'article qui termine en disant « Si je vends une Folk Fender DG10 LHNS, modèle gaucher en bon état avec sa housse pour 120 euros, à vous de voir. » Et je suis retourné par curiosité, je voulais voir justement combien cette guitare-là avait pu se vendre finalement. Et j'ai trouvé un article est surtout intéressant par la façon dont il est écrit. Et vous allez comprendre assez rapidement que c'est sûrement un article qui a été écrit dans une autre langue que le français, probablement en anglais, et que ceux qui l'ont publié se sont donné la peine de le faire traduire par un traducteur virtuel, et ça donne un résultat assez... Bon.
Surprenant.
Je vais me laisser juger. Déjà, le titre, c'était quand même passé bien. Une des guitares de Bob Dylan a été vendue, pas de E, aux enchères aux États-Unis pour près de 400 000. Bon. Il y a un signe de dollar, puis c'est écrit 1000 au bout. New York, 12 novembre. L'une des guitares appartenant à Bob Dylan, vendue aux enchères aux États-Unis pour 396,5 milliers d'apostrophes, a indiqué dimanche, basé à Dallas, la maison d'enchères Heritage Auction, appel d'offres. Bon. Avec un marteau, a quitté la guitare acoustique.
Avec un quoi?
Avec un marteau. C'est écrit un marteau, je ne sais pas pourquoi. Avec un marteau, a quitté la guitare acoustique Martin des 28, 1963, année de construction. Dylan a acquis un outil. J'adore avoir été écrit par, traduit par les mêmes qui traduisent les catalogues de Home Hardware et Ronald. Je ne sais pas. Il y a beaucoup d'outils là-dedans. Donc, Dylan a acquis un outil en 1967 et a ajouté sur beaucoup de ses discours à la fin des années 1960 et au début des années 1970. J'ai rien compris à ce paragraphe-là, mais bon, j'ai compris que ça appartenait à Dylan. En particulier sur cette guitare, le musicien complètement joué le célèbre de la charité, le concert pour le Bangladesh, organisé à New York, l'ex-membre du groupe The Beatles, George Harrison, en 1971. Cette manifestation avait pour but de recueillir des fonds de secours pour les réfugiés du Pakistan oriental, aujourd'hui Bangladesh. Ça se tient quand même.
Oui.
Les victimes de la guerre d'indépendance. Bon. La guitare à l'appel d'offres a exposé Larry Craig, qui travailla pour Dylan Instruments de musique. Il l'a acheté auprès de l'artiste Martin des 28 en 1977 pour 500 $. Selon, là, il y a des lettres en caractère cyrillique. Je ne sais pas pourquoi ça s'est ramassé là, mais bon. Selon un mot que je ne comprends pas, après l'achat, il n'a jamais joué de la guitare et même ne sortait de sa coque. Donc, il ne risque pas d'être accusé de rien. Il est safe. En 2013, la guitare électrique de Bob Dylan, Fender Stratocaster, sur lequel il a joué pendant le Folk Festival de Newport en 1965, a été vendue aux enchères chez Christie's à New York pour 1 million de cet outil, mis alors sur les métiers de la famille de l'État du New Jersey. Je sais pas ce que ça veut dire. Les membres de la famille gardaient la guitare dans un délai de 50 ans après avoir découvert ses oubliés Dylan dans la cabine de l'avion. À 76 ans, auteur, compositeur, interprète, peintre, écrivain et acteur, Bob Dylan, depuis plus de 5 décennies, est une idole de la musique rock. Selon le magazine The Rolling Stones, en partant, c'est le magazine Rolling Stone, pas de S, de Rolling Stones, c'est le groupe. Dylan est le deuxième après The Beatles artiste dans l'histoire de la musique. Deuxième quoi, on ne sait pas. En 2008, le musicien a reçu le prix Pulitzer et en 2016 a reçu le prix Nobel de littérature. Il doit être très fier d'ailleurs s'il lit cet article-là. Pour la création d'une poétique des images de la grande américaine de la tradition. Alors voilà, si ça vous intéresse. Voilà, c'est
ça. Juste la partie où il parle du marteau au début, là.
Ouais,
juste me relire ça.
Ouais,
parce que j'ai l'impression qu'il devait faire allusion au marteau.
Ouais, probablement. Les enchères quand ça a été pas acquitté, mais bon. Avec un marteau a quitté la guitare acoustique Martin des 28 1963 de l'année de construction.
Probablement c'était au coup de marteau.
Ouais. J'aimerais ça,
on va réécrire.
J'aimerais ça mettre la main sur l'article en anglais, mais j'ai essayé de refaire traduire lui en anglais, c'est encore plus drôle. Faut pas faire ça.
Merci pour cette excellente lecture, Daniel.
Bienvenue. Thank you.
Alors, un article que j'ai trouvé dans la revue, un petit trésor, cette revue-là, Cap au Diamant. J'adore ça, j'en trouve des vieux dans des librairies, dans des vieilles librairies. De l'été 2005, mais toujours actuel, parce que ça nous parle de l'origine des Catélies.
Mm-hmm.
Alors, c'est un article de Sylvie Tremblay, qui est maître généalogiste agréé, rien de moins, du Centre canadien de généalogie, Bibliothèque Archives du Canada. Alors, en 2001, évidemment, la revue est de 2005, mais alors, selon le recensement du Canada de 2001, près de 250 000 Québécois ont déclaré être d'origine italienne, ce qui signifie qu'ils ont pour ancêtre une personne originaire d'Italie, habituellement plus éloignée que les grands-parents. Cette immigration en provenance d'Italie débute vraiment à compter de 1861. À ce moment, l'unification de l'Italie pousse un bon nombre de ressortissants, surtout du Nord, à immigrer vers le Canada. La famille Catelli est originaire du nord de l'Italie, plus précisément de Vedano Olona, un petit village situé près de Varese, à 50 km au nord de Milan. Carlo Catelli est né le 17 février 1817 du mariage de Girolamo Catelli et Gindita Roncorini. Il arrive au Canada en 1845. Sculpteur de métier, il profite de la popularité des sculptures en plâtre et fonde en 1848 son propre atelier. Les statues en plâtre étaient très populaires auprès des églises, les couvents, tout ça. Devenu veuf, il épouse Marie Corneau le 9 avril 1850. En 1867, il s'associe à Thomas Carli pour former la maison T. Carli. Né le 23 septembre 1838 à Correggilia Antelminelli, petit village situé dans la province de Lucca en Italie, Thomas Carli a travaillé en Europe et aux États-Unis avant de s'établir à Montréal, en 1858, où il est employé par le statuaire Baccherini. Les deux sculpteurs ont mené une carrière très prolifique. Leurs œuvres peuvent être admirées dans plusieurs églises au Québec. Les deux associés meurent la même année, Thomas Carli en avril 1906 et Catelli en novembre 1906. Charles Catelli avait deux neveux, Carlo et Pietro, enfants de son frère Martin Catelli. Tous deux vinrent au Canada en 1866. Carlo était alors âgé de 17 ans. L'année suivante, soit en 1867, Carlo inaugure dans le Vieux-Montréal, rue Saint-Paul, la première usine de pâte au Canada, où l'on fabriquait des macaronis et des vermicelles de façon artisanale. Ce sera le début d'une aventure économique qui se poursuit toujours. La société Catelli a progressé au fil des ans. La mécanisation de l'entreprise dès 1920 permet d'étendre la gamme de produits en confectionnant des spaghettis et autres formes de pâtes. En 1939, l'usine de la rue Bellechasse est déménagée rue Notre-Dame-Est, où elle se trouve encore de nos jours. Les produits incluent toujours les pâtes alimentaires, mais aussi les sauces, les cornichons, les soupes, les puddings, etc. Aujourd'hui, en 2005, la compagnie emploie plus de 1200 personnes. Carlo Catelli a consacré toute sa vie à son entreprise. Homme d'affaires prospère, il se hisse rapidement dans les rangs de la société bourgeoise de Montréal. Il épouse Maria Armand, fille du sénateur Joseph Armand. Dans les registres de la paroisse Notre-Dame de Montréal, on retrouve les actes de naissance de 9 enfants. Malheureusement, 5 d'entre eux meurent en bas âge et 2 à l'adolescence. Et son unique fils, Léon Catelli, meurt en 1962. Et il semble que Marguerite, une fille née en 1895, ait épousé un homme portant de notre famille de Zunini. Carlo Catelli était fier de ses origines italiennes et aussi de sa patrie d'adoption. Le 28 novembre 1889, il est naturalisé sujet britannique et par le fait même évidemment canadien. Il meurt le 13 octobre 1937 et est inhumé au cimetière Notre-Dame-des-Neiges sur le Mont-Royal, dans le même lot que son épouse et ses enfants. Au cours de mes recherches sur la famille Catelli, je n'ai retrouvé que peu d'informations sur l'autre membre de la famille Catelli venu d'Italie, Pietro, frère de Carlo, et qualifié de marchand. Il a épousé une demoiselle Poitras, le 9 octobre 1886, et Dorilla Masson en secondes noces le 1er février 1894. De cette union, 3 filles sont issues. Toutefois, je ne saurais dire ce qu'il est advenu de Pietro après 1902.
Donc, est-ce qu'on sait si la famille Catelli est encore impliquée dans la
J'imagine, dans la oui.
C'est très gros, Catelli.
Oui, c'est très gros. J'imagine que ça a dû... C'est intéressant d'aller fouiller, oui, effectivement. Ils doivent être encore là, mais 2005, je me sens qu'il n'y a pas eu de gros...
Sinon, ici au Québec, tout le monde connaît le nom et tout le monde connaît les produits.
Oui, ben c'est ça, oui.
On va arrêter de faire de la publicité.
There is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one.
On vient d'entendre House of the Rising Sun, chanson très connue dans les années 60, et je pense que tous les guitaristes qui ont commencé à jouer dans les années 60, c'était une des premières chansons qu'ils apprenaient à cause des arpèges qui étaient assez intéressants à jouer. Donc, House of the Rising Sun, à l'aube des Animals, un article qui vient du Rolling Stone Magazine. 5 septembre 1964, The Animals se hissent pour la première fois au sommet des charts américains avec le désormais culte House of the Rising Sun. Si Lennon et McCartney trustent sans peine le top 50 depuis leur arrivée à New York le 7 février 1964, ce sont 5 Animals mal léchés qui signent le plus gros succès de la rentrée. Classique parmi les classiques, House of the Rising Sun a été enregistré en une prise alors que le groupe britannique était en tournée avec Chuck Berry. 4 minutes durant, une des complaintes les plus connues de l'histoire du rock relate depuis plus de 50 ans les déboires d'un jeune homme condamné à une vie de misère. L'histoire de ce tube, elle... Pardon, l'histoire de ce... C'est l'émotion. L'histoire de cette tube, elle, remonte au début du siècle. Moi, j'étais convaincu que c'était une chanson originale, les Animals, mais non. Bien qu'il ait acquis une renommée internationale au plus fort des 60s, House of the Rising Sun s'est fait entendre dès les années 30. Tout d'abord baptisé « Rising Sun Blues », il trouve son origine dans les ballades du 19e siècle, comme en témoigne le musicologue américain Alan Lomax. En 1937, il fait la connaissance d'une jeune fille du nom de Georgia Turner qui fredonnait un chant traditionnel nommé ainsi. La maison du soleil levant entre dans l'histoire. Surfant sur le succès de la folk à la fin des années 40, le morceau est réinterprété entre autres par Pete Seeger et Woody Guthrie. Les années 60 approchant, Joan Baez et Bob Dylan s'y essaient également. Maison de passe, prison ou casino, la mystérieuse demeure n'a pas encore dévoilé tous ses mystères. Une nouvelle écoute s'impose. Et d'ailleurs, je me souviens, en français, à l'époque, il y avait Johnny Hallyday qui avait fait une version qui s'appelait Le Pénitencier. Voilà l'histoire de House of the Rising Sun. Donc, Serge, on revient avec...
Les trésors détruits de Montréal.
Oui.
Un article de La Presse Plus de samedi, une collaboration spéciale de Samuel Larochelle. Beaucoup d'édifices ont été détruits à Montréal dans les années 60, 70.
Un peu partout au Québec, hein? On avait pas tendance à conserver.
Mais surtout Montréal, je dois dire. Alors que Montréal souligne son 375e anniversaire, on constate que les élus et la population n'ont pas toujours eu la même sensibilité à l'égard de l'histoire et du patrimoine. Petit tour d'horizon des bâtiments patrimoniaux qui ont disparu au fil du temps. Premier sujet, la maison Van Horn. Magnifique maison. Qui était, je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu, a été démolie en 73. Elle était sur Sherbrooke. C'était magnifique, une maison victorienne. La résidence de William Cornelius Van Horn, qui s'est probablement illustré à la tête du Canadien, qui s'est principalement illustré à la tête du Canadien Pacifique, faisait partie des grandes maisons bourgeoises bâties à la fin du 19e siècle dans le cœur du mille carrés doré, le Golden Square Mile, là où une grande partie de la richesse canadienne était réunie. Durant la polémique soulevée en 1973, l'année de sa démolition, on soulignait son importance d'un point de vue architectural et patrimonial, explique Catherine Charlebois, muséologue au Centre d'histoire de Montréal. Le mouvement de protection du patrimoine bâti a donné naissance à l'organisation Sauvons Montréal, aujourd'hui nommée Héritage Montréal. Ça, c'était à la suite de la démolition de la maison.
Ça prenait un événement majeur comme ça pour créer...
Et la maison, petite note personnelle, la maison a été... On en a parlé beaucoup dans les journaux à ce moment-là, à la radio-télévision. Et la maison, il y avait un décret du gouvernement disant ne la démolissez pas. Et ce qu'ils ont fait, ils l'ont démoli durant la nuit. Ça, un samedi, alors que tout le monde est en congé. Et moi, je revenais à ce moment-là, les discothèques étaient toutes au centre-ville. Alors, en 73, j'avais 23 ans, donc évidemment, j'étais dans les discothèques. Et on était revenus, nous, par la rue Sherbrooke, marcher un peu pour prendre l'autobus. Et on a vu des grues
démolir
la maison Van Horn. C'était triste. L'école Aberdeen fut démolie pour être remplacée par l'Institut d'hôtellerie du Québec, qui est actuel. Rappelle Melinda Wollstenholm d'Héritage Montréal. L'établissement était situé face au carré Saint-Louis, dans la rue Ernest. Je vous montre la photo. Regardez si c'est beau, hein? Bel édifice. Aujourd'hui connu sous le nom de rue des Malines. Fréquentée par des élèves de la classe ouvrière, l'école comptait dans ses classes une majorité d'élèves juifs, tout en faisant partie du système des écoles protestantes. En 1959, elle a été partiellement détruite et rénovée. 6 ans après, alors dans un état de délabrement avancé, elle a été totalement démolie. L'ITHQ a été construit sur ce terrain une décennie plus tard, donc en 69. Le Victoria Skating Rink. Ça vous dit-il quelque
chose? Ça ne me dit absolument rien.
Bien.
C'est à quel endroit?
Savez-vous, la première finale de la Coupe Grey, c'est en quelle année?
Aucune idée.
Jean-Sébastien
n'a plus.
Moi, je m'intéresse pas au sport, alors. La première finale de la Coupe Stanley a eu lieu en 1894.
La Coupe Grey ou Stanley?
Stanley.
Là, c'est pas pareil.
A lieu en 1894 sur l'une des premières patinoires intérieures d'Amérique du Nord, rue Drummond. Durant sa construction, au début des années 1860, on était pratiquement dans les champs, dans ce coin-là, illustre Mme Charlebois. Cette infrastructure de loisirs s'adressait aux riches familles de Montréal. Mal entretenu au fil des ans, le bâtiment a été démoli en 1925, l'année de l'inauguration du Forum.
OK, sur Sainte-Catherine, dans le bout d'Atwater.
Le Forum était le nec plus ultra à l'époque, alors le Victoria Skating Rink, qui n'avait pas de système de réfrigération, devenait moins nécessaire. Ensuite, l'édifice Robillard, dont on a parlé en 2016. Les balbutiements du 7e art à Montréal ont eu lieu au coin de la rue Vigée et du boulevard Saint-Laurent, dans un édifice qui a abrité la toute première salle vouée exclusivement à la projection de films en 1896 et 1897. Dans les débuts du cinéma lui-même, alors que les Frères Lumière avaient des concessionnaires à travers le monde, c'est là qu'on a projeté leur film pour la première fois en Amérique du Nord, dans 2 jours avant New York, explique Catherine Brisebois du Centre d'histoire de Montréal. Le bâtiment abandonné a été détruit par les flammes à l'automne 2016. Je passe tout de suite au dernier, l'hôtel Queens, parce que ça me touche particulièrement. J'ai appris que mon arrière-grand-mère maternelle s'était occupé des femmes de chambre à cet hôtel-là. C'était érigé au coin des rues Peel et Saint-Jacques. L'établissement hôtelier a d'abord compté une centaine de chambres avant de voir plusieurs agrandissements lui permettre d'abriter près de 400 chambres. Et il a été démoli en 1988. À ce jour, le terrain est toujours vacant dans ce coin-là.
Donc, ceci met fin à l'émission du mercredi 15 novembre
Absolument.
2017 de Les Voix de Service Magazine. Merci beaucoup, Serge Bradet. Merci beaucoup, Jean-Sébastien La Liberté. Merci beaucoup, Isabelle Falardeau, qui nous écoutait probablement.
J'espère qu'elle nous écoutait au moins.
Et qui sera certainement de retour avec nous la semaine prochaine. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Les Voix de Service Magazine.